France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Dominique Costagliola.
Bonjour.
Vous êtes l'une des épidémiologistes les plus réputées en France, directrice de recherche émérite de l'INSERM. Et merci de venir ce matin faire un point sur l'évolution de cette épidémie, de cette pandémie en Europe, épidémie de Covid-19. Une reprise épidémique, a tenu à préciser hier soir Jean Castex. D'ailleurs, pourquoi est-ce que l'épidémie repart à la hausse en ce moment ?
Ça, il se trouve que ça se passe un petit peu plus tard que l'année dernière, mais c'est un petit peu comme le phénomène qu'on a observé l'année dernière. C'est-à-dire, comme beaucoup de virus respiratoires, il y a une recrudescence au moment où on se met à vivre plus à l'intérieur, sans qu'on sache si c'est directement un effet du climat ou un effet d'être plus souvent à l'intérieur, justement. Sans doute un peu les deux.
Et en France, est-ce que l'on est déjà entré dans cette cinquième vague ?
Là, ça fait 3 semaines qu'on a une augmentation du nombre de nouveaux diagnostics, du taux d'incidence, y compris alors qu'on a beaucoup diminué le nombre de tests. Et on voit aussi une tendance à une légère augmentation des cas à l'hôpital et en réanimation. Donc on peut dire que oui, ben ça repart. Simplement, pour l'instant, le temps de doublement est très long, c'est-à-dire pour doubler le nombre de cas, ce serait tous les mois. Donc voilà, on a un temps de doublement qui est beaucoup plus long. Comme toujours, quand ça repart au début, c'est assez long, puis il y a un moment où ça va s'accélérer.
Donc pas encore de cinquième vague, mais on y va.
Oui, je pense qu'on peut dire que c'est démarré, hein, puisque on y va. Alors après, peut-être qu'on pourra prendre des mesures qui vont contrôler cette évolution. Et puis, la chose qu'on constate quand même, c'est que il y a quand même un assez fort décalage entre le nombre de diagnostics et le nombre de personnes qui vont à l'hôpital. Et ça, on le doit à la vaccination. Et je rappelle que c'est vraiment un résultat formidable d'avoir eu la vaccination en moins d'un an. Et imaginez comme la situation serait complexe si on ne l'avait pas.
Alors, on va continuer à parler de la vaccination avec la troisième dose, mais un tout petit peu après. Encore une question, est-ce qu'il y a des signaux particuliers qui vous inquiètent en ce moment ? Que vous repérez et vous dites ça, c'est pas bon ? Non, pas plus que ça.
Disons que, d'une certaine façon, on constate un certain relâchement des mesures barrières. La politique qui a été adoptée, c'est une politique essentiellement basée sur la vaccination, et bien sûr, la vaccination est la composante principale. Mais je pense qu'il faut pas oublier tout ce qui peut permettre de diminuer le risque de transmission. Donc, toutes les mesures telles que le port du masque, telles que l'aération, donc la mesure du CO2, l'aération quand c'est possible, ou sinon la filtration avec des filtres HEPA, et puis de continuer à appliquer les mesures. Et moi, j'ai l'impression que même autour du pass sanitaire, il y a un certain relâchement, notamment par exemple dans les restaurants, alors que...
On nous demande plus suffisamment notre pass, c'est ça que
voilà,
vous voulez dire ?
Voilà.
Quelle souche, aujourd'hui, nous contamine ? Est-ce que c'est toujours le variant Delta ?
Oui, c'est toujours le variant Delta. C'est 100% des souches qui ont été séquencées, c'est du variant Delta. La sous-famille qui a l'air de monter en fréquence au Royaume-Uni, elle est toujours très 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 peu présente en France. Et je tiens à souligner qu'il faut noter qu'on fait beaucoup plus de séquençage qu'on en faisait au début de l'épidémie. Maintenant, on est parmi les pays qui en font le plus en Europe. Et donc, on a une bonne surveillance de la circulation des variants. Et c'est vraiment le variant Delta.
Mais s'il n'y a plus de nouveaux variants, ça veut dire que l'épidémie ne mute plus, le virus ne mute plus. C'est une bonne nouvelle, ça, ou pas ?
Là, pour l'instant, on n'a pas vu de nouveaux variants qui émergent. Mais finalement, vous voyez, on a eu essentiellement assez vite après le début de l'épidémie, un premier variant qui a fait l'essentiel de la première vague en Europe. Et puis, en tout cas en Europe, le variant Alpha et le variant Delta n'ont pas tant non plus de variants que ça. Donc on n'est pas à l'abri qu'il puisse y en avoir un autre qui émerge et qui sera encore plus transmissible que le variant actuel.
Mais ce n'est pas le cas en ce moment.
Et on n'a pas repéré de variants qui se transmettent plus. On a quelques inquiétudes sur des variants en Amérique du Sud qui pourraient être des variants d'échappement, mais qui ne circulent pas du tout pour l'instant en dehors de l'Amérique du Sud.
Et question également ce matin sur l'éventualité d'une troisième dose de vaccin. Pour l'instant, elle est limitée aux personnes les plus vulnérables. Quand, à vos yeux, va-t-il falloir la généraliser ?
Disons que Pour l'instant, les schémas vaccinaux qui ont été adoptés, peut-être en mettant à part les gens qui n'ont reçu qu'une seule dose avec le vaccin Janssen, ça reste quand même très efficace contre les formes graves, qui est ce sur quoi ça a été enregistré. Alors, on voit qu'il y a une certaine... c'est moins efficace sur la transmission. Ça n'empêche pas totalement la transmission, mais c'est très efficace sur les formes graves. Pour l'instant, ce qu'on a vu de façon claire, et je dirais dans toutes les études, c'est effectivement qu'il y avait une baisse pour les personnes, disons, qui ont le moins bon système immunitaire, donc les personnes les plus âgées, les personnes à risque. Pour l'instant, ce n'est pas si clair pour l'ensemble de la population. Mais il est probable qu'il y aura un moment où cette immunité va quand même baisser. Mais voilà, je dirais que cette troisième dose pour l'ensemble de la population, pour l'instant, c'est sans urgence.
Mais est-ce que cette troisième dose suffirait à elle seule à mettre à distance cette cinquième vague ?
Bien, non, puisque comme j'ai dit, il y a deux aspects dans la vague. Il y a le fait qu'il y ait des contaminations et puis après il y a le fait qu'il y ait des formes graves. On a déjà une dissociation assez forte entre les gens infectés et puis les gens qui sont obligés d'aller à l'hôpital. Donc je pense que pour l'instant, et compte tenu des vaccins qu'on a à disposition et de leur effet sur la transmission, il ne faut de toute façon pas abandonner les autres mesures.
Et les autres mesures, on va les rappeler, mesures barrières, c'est-à-dire toujours la distance.
C'est essentiellement le masque et c'est essentiellement l'aération, parce qu'en fait, comme le virus, il est transmis par aérosol. Bon, les mains, c'est bien de se laver les mains parce que ça prévient aussi la transmission des autres virus respiratoires qui peuvent circuler en ce moment. Et c'est donc très important, par exemple, pour la bronchiolite ou pour ce genre de problème. Mais pour la Covid, c'est pas l'élément le plus important. Le plus important, c'est le masque et l'aération.
Alors, cette troisième dose, Emmanuel Macron doit prendre la parole mardi. Il va sans doute en être question. Il est même possible qu'il la rende obligatoire pour les personnes les plus de 65 ans, les gens en EHPAD. C'est une bonne idée, ça, ou pas? Est-ce qu'il faut rendre ce vaccin, cette troisième dose, obligatoire?
Ben, déjà, on a 13% des plus de 80 ans qui n'ont pas été vaccinés. Alors, donc, eux, c'est déjà ça qu'il faudrait résoudre comme problème. Et ça, ça ne se résout pas de façon magique. Et d'ailleurs, le pass sanitaire a un tout petit peu fait progresser la vaccination dans ce groupe-là, mais pas complètement. Donc, je pense que le premier problème, c'est les gens qui ne sont pas du tout vaccinés avant de s'attaquer aux troisième doses. Après, je pense plutôt que rendre obligatoire, alors qu'on n'a pas rendu le vaccin obligatoire, vous voyez, ça, je ne vois pas trop comment on va faire. Je pense plutôt que ça passera par le fait que pour continuer à avoir accès au pass sanitaire, il faudra avoir eu une troisième dose.
Donc il faut le lier
pas
au
tout
pass.
À fait, enfin, qui n'est pas tout à fait l'obligation. C'est-à-dire, je ne vois pas comment concrètement ce serait possible. Et après, je pense que des mesures... Autant on comprenait qu'il y ait des mesures spécifiques pour les professionnels de santé, parce qu'ils travaillent au contact de personnes fragiles et qu'il y a déjà des obligations vaccinales professionnelles pour ce groupe, autant... prendre une mesure qui ne s'attache qu'à une portion de la population sans toucher tout le monde, je pense que d'un point de vue éthique et réglementaire, ça risque d'être compliqué.
Mais en tant que scientifique, en tant qu'épidémiologiste, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une déclaration d'Emmanuel Macron mardi prochain, après un nouveau conseil scientifique à l'Élysée ?
Eh bien... je ne sais pas, en fait.
Il n'y a pas des mesures que vous attendez particulièrement?
Moi, je pense que la communication pourrait être plus claire, justement, sur le fait que la transmission se fait par aérosol et que donc ce qui est important, c'est le masque et c'est l'aération et c'est les filtres EHPAD en toutes circonstances. Je pense aussi que l'idée qu'on allait commencer à alléger les mesures alors que on n'a pas eu une longue période d'accalmie, c'était pas forcément raisonnable, parce que je pense que être obligé de remettre en place des mesures qu'on a enlevées, comme ça va être le cas par exemple pour le masque dans les écoles, je pense que c'est plus difficile à supporter pour les gens en termes d'efficacité générale des mesures. Et je pense qu'enlever des mesures dans un endroit où, par définition, une grande proportion du public ne peut pas être vaccinée puisque la vaccination des moins de 12 ans n'est pas possible, c'était pas non plus une bonne idée. Donc ça serait bien qu'on arrête ce genre de mesures.
Ça dit pour les écoles, dans 39 départements, les élèves vont devoir porter des masques dès lundi.
Oui, mais je pense que c'est plus difficile après avoir une période où on vous a dit « c'est fini », de vous dire « ah ben non, ça y est, faut y repartir ».
On a le sentiment que c'est devoir s'adapter à l'épidémie, finalement.
Oui, bien
aussi.
Sûr, mais je pense que c'est psychologiquement plus difficile que si on avait continué à le porter tout le temps.
Mmh. On parlait des enfants, juste pour terminer sur les enfants, la vaccination des enfants en bas âge, est-ce que les épidémiologistes français ont tous le même discours là-dessus ?
Non, parce que je pense que la situation est complexe, et notamment parce que le bénéfice, on sait que les enfants, c'est pas qu'ils ne font pas des formes graves, ils en font beaucoup moins souvent. Donc ils sont moins à risque. Donc la balance bénéfice-risque, vous voyez, il faut vraiment que le risque soit très 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 faible pour qu'on dise qu'il y ait une balance bénéfice-risque individuelle. Et de façon collective, compte tenu que l'efficacité sur la transmission est quand même seulement de 50%, là aussi, le bénéfice n'est pas si important. Il faudrait vraiment qu'il y ait...
Aux États-Unis, c'est important, il y a un bénéfice-risque qui est important, mais ça, c'est pas le cas
en France. La balance n'est pas au même endroit, parce que notamment, il y a beaucoup plus d'enfants à risque de formes graves que ça n'est le cas en France.
Notamment à cause de l'obésité aux États-Unis,
oui,
plus marquée qu'en France.
Absolument, et on a bien vu pendant la vague là, de cet été, qu'il y avait quand même une proportion non négligeable d'enfants qui étaient obligés d'aller à l'hôpital, une proportion plus élevée que ce qu'on observe chez nous. Chez nous, à nouveau, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même rare.
Et est-ce qu'on est capable de tirer un bilan de la campagne de vaccination des plus de 12 ans ? Ça a été une vraie bonne idée, c'est un succès,
c'est ça, pour le coup, il y avait vraiment une balance bénéfice-risque, y compris individuelle, très positive. Et malgré tout, finalement, il y a une proportion, je crois que c'est un peu plus de 76% d'entre eux qui sont vaccinés. Donc assez rapidement,
ça permet de
une proportion vraiment importante, et ça contribue à la diminution de la circulation du virus, bien entendu.
Quelle est l'efficacité de la troisième dose ? Est-ce qu'elle est déjà mesurée ? Est-ce qu'elle va nous protéger à nouveau 6 mois ?
Alors, on n'a pas d'idée de quelle durée, justement. On va commencer à avoir des données, je pense, chez les plus de 65 ans, dans les pays qui ont commencé cette démarche. Donc, on a déjà des données sur les plus de 65 ans, en Israël, où on voit qu'effectivement, ça a une contribution importante. Comme j'ai dit, c'est moins clair, en fait, pour les moins de 65 ans, parce que déjà, on gardait toujours une très bonne efficacité pour l'instant. Et je pense que c'est malheureusement, on n'a pas le recul qui permet de dire au fond à quel rythme et si il faudra à nouveau être vacciné.
Une quatrième fois.
Une quatrième fois.
Est-ce que vous redoutez un ras-le-bol vaccinal ? Ou est-ce que vous dites que c'est une...
Je crois que on sait bien que dans la grippe, par exemple, on est vacciné tous les ans parce que c'est essentiellement parce que c'est pas les mêmes souches qui circulent d'une année sur l'autre. Donc voilà, ce serait pas la première fois qu'on est obligé de recourir régulièrement à la vaccination.
C'est juste.
Un mot sur la perspective de pilules et autres traitements. Le laboratoire américain Merck a mis au point une pilule anti-Covid, un traitement médicamenteux. Le molnupiravir. La France en a commandé 50 000 doses qui ne seront pas disponibles avant fin du mois ou décembre peut-être. Que faut-il en attendre de cette pilule ?
Alors, pour l'instant, en fait, on a assez peu de données. On a seulement eu le communiqué de presse de la firme. Et puis, ce médicament vient d'être enregistré au Royaume-Uni. Donc, on a un tout petit peu de détails dans le résumé des caractéristiques du produit qu'a publié l'agence du médicament anglaise. Mais quand même pas beaucoup. Et puis, on a aussi une annonce hier de Pfizer pour une antiprotéase avec, là aussi, une efficacité, disons, sur la base du communiqué de presse, qui a l'air d'être relativement semblable. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à avoir un avis quand je n'ai pas pu voir les données de façon détaillée, que ce soit dans un article ou dans un rapport détaillé. Donc là, je suis un peu sur ma faim.
Selon Merck, je le lis, cette pilule divise par deux le risque d'hospitalisation quand il est donné à des patients qui viennent d'être testés positifs. Le but, c'est quoi ? C'est de limiter les formes graves de la maladie ?
Là, en fait, l'efficacité, elle est essentiellement quand on peut donner le médicament dans les 5 jours qui suivent les premiers symptômes. Et ça, c'est chez des gens à risque, c'est-à-dire en général, ce que la plupart maintenant des labos font, c'est des personnes de plus de 60 ans ou alors des personnes de moins de 60 ans mais qui ont un facteur de risque tel qu'obésité, diabète. Donc l'enjeu pour que ça ait un rôle, ça va être de réussir à diagnostiquer les gens dans ce délai et à instituer le traitement dans ce délai. Donc il va falloir mettre en place un circuit court et ça va être un enjeu logistique important. En France, par exemple, dans un essai en ambulatoire qui s'appelle Coverage, le délai médian auquel les gens pouvaient être inclus dans l'étude était de 4 jours. Donc vous voyez, la marge est petite. Alors en sachant qu'il faisait beaucoup d'efforts dans un cas cadre d'un essai. Donc, dans la médecine de tous les jours, l'enjeu, ça va être de pouvoir donner ce traitement dans les 5 jours et donc d'avoir un circuit très court. Alors même que là, avec la nouvelle façon de faire le diagnostic, avec le fait qu'il faut une prescription médicale quand on n'a pas quand on n'est pas vacciné, eh bien, on a sans doute retardé par rapport au début des symptômes le moment où les gens étaient diagnostiqués.
Mais le traitement, c'est ce que vous attendez, parce que ce serait le retour à la vie normale finalement, un traitement contre cette
d'abord,
épidémie.
Ça ne prévient que 50%. Donc c'est beaucoup moins efficace que le vaccin, hein. Et alors ça sera.
Pardon, je reviens sur ce que vous venez de dire. La pilule, enfin le traitement, ne peut guérir que 50% des cas.
Il diminue par deux le risque d'aller à l'hôpital. C'est ce que vous avez
d'accord,
dit vous-même.
Oui.
Donc alors que le risque de faire des formes graves quand on est vacciné, c'est diminué de 90%. Alors, ça sera utile pour les gens qui ne réagissent pas à la vaccination. Donc, les personnes qui sont immunodéprimées, les personnes, par exemple, qui ont un cancer, les insuffisants rénaux, les personnes dans ce cas-là, eux, il faut vraiment que si jamais ils ont des symptômes, on leur donne ce traitement-là. Et pour eux, c'est une contribution majeure, parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus efficace qui marcherait chez eux. Mais pour la population générale, vous voyez, c'est quelque chose qui est moins efficace que le vaccin, donc il va contribuer parce qu'il y aura toujours des gens pas vaccinés et bien sûr il faut s'occuper d'eux, mais ça peut pas être un game changer de l'épidémie.
Vas-y, je t'en prie.
Un mot sur l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne, qui faisait figure de bon élève au moment de la vaccination il y a plus d'un an, est-elle devenue l'un des pays européens où la situation est en ce moment la plus préoccupante?
D'abord parce que interpréter au bout de 3 semaines qu'est-ce qui se passe en termes de vaccination, surtout à une période où finalement il n'y avait pas beaucoup de doses, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et en fait, en Allemagne, c'est assez contrasté. D'abord, globalement, ils sont un peu moins vaccinés qu'on l'est chez nous. Et c'est aussi assez contrasté géographiquement parce qu'il se trouve que dans les régions de l'ancienne Allemagne de l'Est, des régions qui historiquement n'ont pas pris l'habitude de faire confiance à leur gouvernement, pour des raisons qu'on comprend bien, eh bien, il y a plus d'hésitation vaccinale et il y a moins de vaccination. Et plus on s'éloigne vers l'Est, plus on est dans cette situation. On voit qu'il y a aussi beaucoup de pays de l'ancienne Europe de l'Est dans lesquels la situation est extrêmement mauvaise.
Enfin, quand même, globalement, l'Allemagne, c'est 66% d'Allemands qui sont vaccinés. En France, on est à 75%, un écart de 9 points, de 7 points, ça fait un changement aussi
nouveau,
important.
À nouveau, tout dépend de là-dedans, comment répartis les gens qui sont les plus à risque. Et oui, ça peut suffire, et à nouveau aussi sur l'ensemble des mesures. C'est la raison pour laquelle je pense que, vous voyez, se baser uniquement sur le vaccin pour faire la politique à l'heure actuelle, eh bien, c'est pas ce que nous montrent les données de la science. Il faut vraiment tout combiner pour réduire au maximum le risque, en fait.
Et nous qui sommes à 75% avec, donc de schéma vaccinal complet, 88% de personnes qui ont au moins une dose, ça suffit pas pour atteindre ce dont on nous parlait au début, cette immunité collective? Alors, à laquelle on rêve tous.
L'immunité collective, c'est un concept théorique dans le cadre de modélisation simplifiée. Ce qu'on est en train de voir, c'est que dans la vie en vrai et avec comme ça se passe, qui n'est pas simplifié parce que c'est assez complexe la transmission. Il y a sans doute des gens qui transmettent pas du tout, des gens qui transmettent beaucoup, etc. Eh bien, ça ne marche pas.
Une dernière question et réponse rapide, s'il vous plaît. Question d'auditeur inquiet. Pas de risque de cumuler les vaccins anti-grippe et anti-Covid?
Bon, il y a pas de risque particulier. Je crois qu'il n'y a pas eu de choses particulières qui ont été décrites dans ce contexte. Mais si les gens ont cette crainte, eh ben, ils peuvent se passer d'une semaine les 2 vaccinations. C'est pas non plus un gros problème si on y a facilement accès.
Merci d'être venu nous éclairer ce matin, Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche émérite à l'INSERM, à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Merci beaucoup et bonne journée.